Notre monde moderne n'avait jamais été confronté à une telle crise sanitaire. En quelques semaines, nos vies ont changé, sans doute pour longtemps, mettant sur le devant de la scène les professionnels de la santé, médecins, chercheurs, infirmiers, aides-soignants et tous ceux que l'on ne voit pas, ceux qui assurent le fonctionnement de nos hôpitaux et nous protègent. France Info vous propose une plongée exceptionnelle au cœur de l'hôpital public. Une série de podcasts originaux pour mieux connaître ceux qui nous soignent, réalisés dans les services hospitaliers de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Pour ce premier épisode, la spécialiste médicale de France Info vous emmène 24 heures au cœur de la lutte contre le Covid-19, vivre et mourir à l'hôpital Bichat. Un document signé Solène Lehen et Jérémy Thuil avec un mixage de Thomas Langlin.
On était venu il y a un mois tout juste pour un reportage dans ce service de réanimation, le cœur de l'hôpital. Il accueillait alors les premiers malades français du Covid-19. Dans ce long couloir aux 36 chambres occupées par des patients très gravement atteints, on retrouve une figure familière, le professeur Lila Boidma, le visage marqué.
Je pense que comme tous les réanimateurs français, on est sous choc, parce qu'on n'a jamais vécu quelque chose comme ça. C'est beaucoup, beaucoup de travail, malgré tout. 7000 malades en réanimation, c'est quelque chose que qu'on pensait ne pas pouvoir faire. On y est arrivé, mais bon, ça a des conséquences sur la fatigue, etc. Parce que maintenant, il va falloir essayer de tenir sur la durée. Donc, fatigué. Donc, on y est arrivé. Voilà, c'était quand même une grosse vague. Plus, je pense qu'on ne saura pas faire. Il ne faudrait pas que la prochaine survienne tout de suite.
Nombre de morts dans votre service ?
J'ai pas compté, mais beaucoup, beaucoup. Il y a plein de patients qui vont possiblement décéder, qui sont extrêmement graves et qui vont possiblement décéder.
Et alors qu'on discute, des infirmiers et aides-soignants s'agitent à côté de nous. Un patient vient de mourir. Le travail se fait en silence. Le corps peut être contagieux. Il faut immédiatement le mettre dans une housse. Charlène et Marie, infirmières, se sont occupées de cet homme dans ces derniers instants.
Bah oui, on s'y attendait. Enfin, on savait qu'il n'allait pas s'en sortir. Il est parti doucement. Et...
C'est pas décourageant ?
Au début, si, parce qu'on en avait beaucoup. Là, on en a de moins en moins, heureusement. Heureusement, mais bon. Mais oui, on prend l'habitude et c'est un peu triste.
Ce décès, c'est terrible, mais ce sera aussi une place de libre en réanimation pour accueillir très vite un nouveau malade. Ce patient décédé, c'est désormais Yannick Tolila-Huet qui va s'en occuper.
Vous êtes à la chambre mortuaire de l'hôpital Bichat.
Elle est responsable de la chambre mortuaire de l'hôpital.
C'est une pièce commune à basse température où tous les brancards sont disposés les uns à côté des autres. Normalement, ils sont numérotés. Là, il n'y a plus de numéros. Il y a des brancards partout, partout, partout. On a eu le premier patient Covid en février. Petit monsieur touriste chinois qui est décédé, on ne pensait pas que ça prendrait une telle ampleur, donc on lui avait fait une petite pièce spéciale tout seul. Et puis ben, après, on est obligé de s'adapter, hein, puisqu'on en a eu 1, 2, 3, 4, et voire jusqu'à 50 patients.
Vous avez eu la place ?
On l'a faite, la place. On a été pas mal aidé, donc on a un camion semi-remorque réfrigéré. Sur le parking de la chambre mortuaire.
Les patients, vous les mettez dans un camion ?
Et nous, le but, je vous ai dit, c'était vraiment simplement que les patients soient conservés le plus dignement possible. C'est-à-dire que la seule façon de les conserver dignement pour pas que l'évolution du corps continue à se faire à vitesse grand V, surtout par des temps qui se réchauffent comme aujourd'hui, c'est de les garder au frais. Donc si la seule chose que l'on a, c'est le camion réfrigéré, oui, on va les mettre dans un camion réfrigéré. Vous savez, quand on n'a pas le choix entre la peste et le choléra, il faut choisir. Hein.
Petite femme aux cheveux grisonnants, Yannick Tolila-Huet pensait en avoir vu d'autres.
J'ai pris 10 ans, là, déjà. Contrairement à avant, où c'était d'essayer d'embellir un peu la mort, si on peut parler comme ça, c'est-à-dire faire des soins aux patients décédés, de faire en sorte qu'ils soient le plus présentables possible pour leur famille. Là, le seul but que l'on a, c'est de faire en sorte que nos patients soient conservés dignement. Mais on ne voit plus les visages, on n'ouvre plus les housses, on ne fait plus le même métier. Moi, le sida a marqué ma vie définitivement. Je ne pensais pas avoir à vivre encore un truc comme ça qui pourrait marquer effectivement ma carrière de soignante. Hein. Alors, ça reste des épidémies qu'on n'oubliera pas.
On voit la pharmacie après.
À quelques pas de la chambre mortuaire, au sous-sol toujours, de la vie cette fois, une fourmilière même. Nous sommes au magasin. Cet après-midi, c'est distribution de masques pour les trois prochains jours.
La cardio ? Ouais, le 6e et le 7e.
Tous les services descendent un par un récupérer ce trésor.
Alors la Réa, ils ont 3000 masques de soins, 2000 FFP2.
Merci beaucoup. Merci.
Alors, c'est bon ? On a eu ce qu'on avait demandé.
On a 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. On doit avoir une vingtaine de cartons en tout à porter.
Réa, vous en avez eu les visières ou pas ?
Il joue du piano debout au milieu du couloir du service de maladies infectieuses. Lui, c'est Timothée, il est interne. Quand il a une minute, il joue quelques notes pour ses patients. De sa chambre, Moussa Diallo ne peut pas les entendre. Il est pourtant à quelques mètres seulement, mais très isolé, dans une chambre à pression négative pour ne pas laisser le virus s'échapper. Déjà 2 semaines à l'hôpital pour ce quinquagénaire. C'est Sandrine Gérard, cadre de santé, qui vient briser sa solitude de malade.
Les journées sont très longues. Je n'ai pas de parents, je ne vois pas mes enfants, je ne vois personne.
À part les soignants.
Et nos parents, aujourd'hui, c'est eux.
Vous êtes sa maman ?
On
essaye de faire du lien et de que ça soit moins difficile pour tout le monde.
Sincèrement, c'est grâce à eux que nous on arrive à tenir quoi.
Le jour où vous partirez, vous dites je serai content de retrouver ma famille. Est-ce qu'il y aura une petite pointe de tristesse de quitter les personnels soignants qui avec qui vous êtes resté pendant 2 semaines au moins ?
Ça c'est le truc le plus difficile. Ils vont nous manquer. Quand je regarde à 2h du matin les gens qui venaient sur moi ici pour venir prendre mes prises de sang parce que je faisais une fièvre et tout ça, qui se privaient de sommeil, qui venaient chez moi, sincèrement, ça c'est énorme. Quand je pense à ça, des fois, j'ai les larmes aux yeux. Donc tout ça, ça fait partie de moi. Ça fait partie d'une famille. Parce qu'ils se battent pour nous. Je ne sais pas combien ils touchent. Mais je me dis qu'ils ne sont pas récompensés à leur juste valeur côté financier, ça c'est sûr. Mais ils se battent pour nous, ça c'est ça qui est énorme.
Comme dit monsieur, c'est vrai que on est ensemble, on l'aide à aller mieux, mais il nous aide aussi à continuer. Et c'est un échange, c'est énorme ce qui se passe actuellement. En termes de relations, de contacts, c'est énorme.
À plus tard,
au revoir.
Le patient et la soignante, ça pourrait être un joli titre de film, car de belles histoires, il y en a plein à raconter. Toujours dans ce service de maladies infectieuses, par exemple, le chef, le professeur Yazdan Panal, un des meilleurs connaisseurs du coronavirus en France, a inversé les rôles malgré lui. Hospitalisé, son confrère Xavier Lescure était à son chevet.
Le professeur Yazdan Panal a été touché par le Covid, il a été hospitalisé 10 jours dans le service. Et ça soude. On était une équipe et lui-même dit « maintenant on est une famille ». Il a émis le souhait d'être hospitalisé dans le service, ce qui n'était pas forcément évident. Ce qui aurait pu être quelque chose presque à éviter, parce que ce n'est pas facile de s'occuper des gens qu'on connaît. Il est sorti, il est en convalescence, il va bien. Il a senti aussi qu'il a vécu dans l'intérieur le fait que le service était hyper soudé, qu'on était hyper solidaires les uns des autres, que l'information passait, que les choses difficiles étaient verbalisées, et c'est sûr que ça nous a rapprochés. On n'a qu'une envie après cette crise, c'est de faire ce qu'on appelle une fête de service pour concrétiser ça dans le positif et dans l'énergie positive pour aller de l'avant pour la suite.
À l'hôpital, il y a aussi désormais des moments de calme. Un hôpital qui souffle un peu, à nouveau, en attendant que la prochaine vague de malades ne l'emporte peut-être. Le calme des urgences, par exemple. Le docteur Christophe Choquet dirige le service.
L'activité s'est absolument effondrée. Moi, c'est une activité que je n'ai jamais vécue à Bichat. J'y suis depuis une quinzaine d'années, avec 50% en moins d'activité.
Ça n'a jamais été aussi calme.
Ah, ça n'a jamais été aussi calme. On a deux inquiétudes. La première inquiétude, c'est évidemment le déconfinement et le risque qu'il y ait une deuxième vague. La deuxième inquiétude, c'est que cette infection a fait fuir nos patients habituels des services d'urgence. Que ce soit des patients qui relevaient de la médecine générale, mais ceux aussi qui ont des maladies chroniques, qui sont traités au long cours, qui peuvent décompenser. Tous les services d'urgence se sont posés la question. Où sont-ils passés, ces patients-là? Ils vont revenir. Et notre grande inquiétude, c'est que des patients qui ne sont pas venus aux urgences parce qu'ils avaient peur d'attraper le Covid, attendent le dernier moment et arrivent aux urgences dans un état catastrophique parce que soit ils n'ont pas renouvelé leur traitement, soit ils ont décidé d'arrêter le traitement parce qu'il y a tellement de choses qui se disent dans les médias qu'il faut arrêter tel ou tel médicament ou prendre celui-là. Et ces patients-là, à un moment, vont arriver. On a eu, la semaine dernière, trois péritonites qui sont arrivées extrêmement graves parce que ces patients ont eu des douleurs abdominales pendant plusieurs jours et ils ont attendu le dernier moment pour arriver et actuellement, ils sont en réanimation dans un état très grave. Donc, ça, c'est la très, très grosse inquiétude. Et on se dit, à un moment, ces patients vont revenir. Dans quel état ?
Messieurs, dames, bonjour.
Bonjour.
Il y a aussi des moments de doute, des décisions difficiles à prendre. Chaque matin, à 9h30, Christophe Choquet dirige une réunion d'éthique. Il faut décider, faire des choix pour les patients. Ils sont 6 médecins autour de la table.
52 ans.
52 ans. Diabète insulino-dépendant, dyslipidémie.
Vient le dossier d'un malade.
C'est 68 de PO2.
Au fur et à mesure de la lecture, les visages se tendent. Un patient atteint de Covid, déjà diabétique, insuffisant respiratoire avec de graves problèmes pulmonaires. L'équipe appelle son pneumologue.
Lise, oui, c'est Jean-François, je te dérange ? La question qui se pose est de savoir si on irait jusqu'à une intubation, ce qui me semble extrêmement délicat vu l'état de ses poumons. Mais on voulait en parler avec toi d'abord. Et exactement, exactement. On est d'accord. Bon, Lise est d'accord, le bénéfice à l'intubation paraît nul.
Jean-François Alexandra, médecin et président du comité d'éthique de l'hôpital.
Si jamais son état de santé se dégradait, on pense qu'on ne pourrait pas aller jusqu'à lui offrir une ventilation assistée par une intubation parce que ses poumons sont probablement trop abîmés et son état général pour moi un peu précaire pour qu'il puisse supporter le stress induit par cette réanimation extrêmement lourde. Donc si jamais ça ne se passait pas bien avec des soins standards, malheureusement, ça veut dire que ce patient mourrait. Faire une ventilation dans cet état-là, probablement ne lui apporterait aucun bénéfice, uniquement des souffrances.
J'imagine que ce genre de décision, c'est lourd à prendre.
C'est jamais très agréable. C'est pour ça qu'on est plusieurs.
Des décisions médicales immédiates. Il faut aussi réfléchir à l'après-Covid. Au premier étage, celui de la direction. Réunion avec tous les chefs de service. Autour de cette immense table en bois, tout le monde porte un masque. La question du jour, comment l'hôpital va-t-il maintenant s'organiser pour que cohabitent patients atteints du coronavirus et les autres malades ?
Je pense que symptomatique ou non symptomatique, il est important de savoir si les patients hospitalisés dans les services Covid moins, doivent être dépistés de façon un peu systématique à partir des urgences. Je pense que ça, c'est important.
C'est ce qui risque d'arriver si tu dépistes tes zéros et que trois jours après, tu as quelqu'un d'asymptomatique qui présente des symptômes.
L'idée qu'à l'avenir, il faudra porter un masque en permanence à l'hôpital, malade comme personnel, fait son chemin. Le professeur Jean-Christophe Lucet est en charge de l'unité d'hygiène.
Ce qui va changer probablement, c'est le port du masque, qui était en fait très peu utilisé avant l'histoire du H1N1 en 2009. À tel point même que les soignants qui portaient un masque parce qu'ils étaient grippés étaient un peu stigmatisés par leurs collègues. C'est devenu plus fréquent après 2009 et ça va sûrement le devenir encore plus fréquent quand on sortira de la crise ici où le port du masque va devenir, je pense, quelque chose d'automatique quand un soignant aura des signes respiratoires mineurs.
À l'hôpital, chaque jour amène son lot de satisfactions, petites satisfactions personnelles, petites victoires contre le Covid. Celle par exemple de Jean-François Timsit, chef du service réanimation.
Moi j'ai vraiment l'impression qu'on a fait des progrès, qu'on a beaucoup appris sur le soin de ces patients, indépendamment du fait que les traitements miracles n'existent pas. Par contre, l'amélioration du traitement, des symptômes liés à cette maladie, des complications liées à cette maladie, a fait d'énormes progrès. et de la façon de gérer la pneumonie, le fait qu'on le manque d'oxygène, en mettant plutôt de façon plus tardive la ventilation mécanique et l'intubation à ces patients qui sont très, très altérés au niveau pulmonaire, a très nettement amélioré le pronostic. Donc beaucoup, beaucoup de choses qu'on apprend au fur et à mesure.
Un hôpital qui apprend, qui progresse, des équipes soudées, couvertes de cadeaux, de dons, de chocolat. Un hôpital qui rigole même.
Alors comme ça, on dit qu'il est malade.
Huitième étage de la tour principale, nous sommes en pneumologie. À l'accueil, Leïla, Audrey et Séverine décompressent.
Alors c'est l'histoire d'un mec. C'est l'adrénaline.
Il est où le patient?
Il est là, on va à la gauche. Salle d'attente, ton patient. Merci, mesdames. À tout à l'heure.
Il y a de quoi avoir le sourire sur une chaise à côté. Nathalie Linon attend d'être reçue par le médecin. Elle se qualifie de survivante. Réanimation, coma. Finalement, elle sortira de l'hôpital dans 2 jours.
J'étais en pronostic vital engagé. Ils ont appelé mes filles et mon mari. Il me restait 3 mois à vivre.
Et vous vous êtes réveillée finalement?
Et il s'est avéré que je m'en suis sortie. Oui, moi j'ai été félicitée par tous les médecins. Au bout d'un moment, je vous l'avoue, j'ai voulu abandonner. Trop, 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 trop dur. J'ai des enfants, j'ai un super mari, j'ai 2 filles magnifiques. Ils m'ont annoncé leur grossesse chacune. Faut que je me relève. Interdit. Interdit de renoncer à quoi que ce soit. Et maintenant, je veux manger de la vie à pleines dents. C'est même plus la joie, là, ça va. C'est fou.
Ça fait presque 2 mois à l'hôpital. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels souvenirs vous allez en garder?
J'ai eu des gens magnifiques. Remercier Nicolas, kiné respiratoire. C'est un jeune homme de 36 ans qui m'a redonné goût. Et c'est lui qui m'a fait respirer. Peut-être grâce à lui que je suis encore en vie. Je ne sais même pas comment le remercier. Je ne saurais jamais le remercier. Je pense que je n'aurai pas assez de souffle de ma vie, maintenant que j'ai du souffle, pour le remercier. Mais remercier aussi toutes les petites mains. Toutes les petites mains, même les femmes de ménage qui vous donnent leur sourire. Mais l'AREA aussi, une super équipe. Tous les 10 minutes, il y avait du monde. Je ne restais jamais seule.
Et pourtant, ils avaient du boulot.
Et pourtant, mon Dieu, les pauvres. Mais jamais je les remercierai assez. Il y aura des souvenirs, lesquels je ne sais pas. Mais pas que des mauvais, en tout cas.
Bonne santé, hein.
Bonne santé à vous, madame.
Pour le professeur Camille Taillé, pneumologue, il y aura un avant et un après Covid à l'hôpital.
Tout a changé, toute notre vie a changé, complètement. Ce ne sera plus comme avant, je crois. On a vu des gens se révéler, prendre plein d'initiatives. On a vu des étudiants en médecine se transformer en infirmières. On a vu des chirurgiens qui allaient faire les aides-soignantes en réa. Enfin, on a vu des trucs... extraordinaire, plein de gens super motivés. Donc oui, c'est, ça aussi, c'est beau de voir cet esprit de soignant qui se révèle dans l'adversité. Il y a plein de belles choses, plein de belles choses.
Info rend hommage aux soignants en partenariat avec l'assistance publique Hôpitaux de Paris.